desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.
Jour pour jour que dure le soulèvement palestinien dans les territoires occupés par Israël. Aujourd'hui, 8 février, dans les territoires occupés, la population palestinienne fait la grève. C'est la grève générale des transports, du travail et du commerce. C'est pourquoi nous avons choisi de vous parler ce soir de la Palestine avec Clotilde Halenik.
عيك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود اطفال نار الشرمال يا بلاد العود قريبي والانتفاضة شعالي من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد أزهار من مخيم لمخيم جسر
Des siècles d'oppression, d'occupation, 15 mois de révolte, de soulèvement de tout un peuple. Je suis en compagnie de Clotilde Halenik, une femme juive de Genève, assistante sociale qui travaille auprès des réfugiés à Genève. Elle a 51 ans et elle a voulu aller voir de ses propres yeux en Cisjordanie, dans les territoires occupés, ce qui s'y passe. J'ai envie de lui poser plein de questions, qu'elle me raconte qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vécu et qu'elle témoigne ici. À notre émission de son engagement de femme juive en faveur de la cause des Palestiniens. Clotilde, qu'est-ce qui t'a poussée à aller dans les territoires occupés ?
Bon, au départ, dans les territoires occupés est l'aboutissement d'une longue prise de conscience. J'ai été élevée dans une famille juive avec l'idée que nous sommes un peuple historiquement persécuté. Et j'ai transporté cette image avec moi pendant très longtemps. Et je n'ai pas pu d'abord comprendre et ensuite pas du tout accepter que notre peuple ou le pays qui nous représentait puisse incarner des valeurs aussi contraires que celles que nous affirmons en opprimant à son tour un autre peuple, ainsi qu'il est en train de le faire dans les territoires occupés de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Donc c'est ce qui m'a incité d'une part à me documenter un peu plus, à lire, à comprendre, à poser des questions, et ensuite à vouloir moi-même constater et vivre sur place ce qui se passait.
Parce que tu es juive, et le fait d'être juive, c'est ça une des raisons qui font que tu as voulu aller voir sur place, que tu as voulu bouger sur cette question.
Bon, le fait d'être juive m'a amené à toujours avoir un esprit critique envers toute forme de racisme, de discrimination, quel qu'il soit. Et je crois que j'ai toujours adopté la cause des peuples colonisés, de tous ceux qui luttaient pour leur libération. Peut-être justement parce que j'avais été sensibilisée à ce problème. Et c'était étonnant de voir pour moi que d'autres qui avaient eu la même expérience que moi n'étaient pas arrivés aux mêmes conclusions.
Tu as été dans les territoires occupés de Cisjordanie, tu voulais voir de tes propres yeux, mais j'imagine que tu voulais aussi amener quelque chose de toi là-bas et ramener quelque chose.
Mais bien sûr, mon but, c'est de témoigner, c'est d'exprimer mon refus, c'est d'exprimer ma révolte. C'est aussi l'espoir que la minorité de juifs qui maintenant disent leur désaccord aille en augmentant et oblige le gouvernement d'Israël à revoir sa politique. Je suis moi-même issue d'une famille juive qui a eu à souffrir des persécutions nazies. Et c'est un des thèmes qui a bercé mon enfance. De même que ma famille a toujours dénoncé la complicité ou le silence des gens qui étaient autour de nous, des Suisses, qui savent que des milliers de Juifs ont été repoussés aux frontières et n'ont rien dit. Et moi, je ne veux pas reproduire ce silence en face d'une situation qu'évidemment on ne peut pas comparer, qui n'est pas identique, mais qui est tout de même assez grave pour mériter d'établir un parallèle.
Tu as été en Cisjordanie et tu as pu voir plein de choses. Tu as visité des villages, tu as vu des gens. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus ?
Bon, effectivement, en 2 semaines de séjour en Cisjordanie, j'ai pu visiter 4 camps, un hôpital qui est l'hôpital le mieux équipé pour recevoir des blessés graves, un hôpital palestinien, 2 autres hôpitaux, dont un de bébé, une institution qui essayait, puisqu'elle a été fermée et interdite, de former des jeunes femmes professionnellement, et qui continue encore à accueillir des enfants orphelins, donc une institution éducative, un village sinistré, des villages de tentes abritant des familles dont la maison a été démolie. Donc une expérience quand même assez vaste. Et j'ai même contacté en tout premier lieu une organisation de femmes israéliennes, dont le siège est à Tel Aviv. Ce groupe s'appelle Organisation des femmes pour les femmes prisonnières politiques. C'est encore un tout petit groupe de femmes qui a pu obtenir d'entrer dans les prisons, visiter des femmes prisonnières palestiniennes, qui essayent de les aider en leur apportant des vêtements, qui visitent leurs familles, souvent à l'abandon, les pères étant déjà tués ou arrêtés, les enfants se trouvant complètement démunis. Elles font donc un travail de base dans le terrain. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant le courage et l'engagement de ces femmes israéliennes qui elles-mêmes sont souvent en procès ou parfois même emprisonnées pour leurs activités.
Mais comment c'est accueilli, comment c'est accepté cette aide de femmes israéliennes, cette solidarité ?
Les familles palestiniennes les accueillent extrêmement bien et d'une façon tout à fait chaleureuse. Le premier camp que j'ai visité était avec l'une de ces femmes israéliennes. Et j'ai pu voir à quel point elle était implantée parmi ces familles, avec quelle joie on l'accueillait.
Et toi-même, comment tu as été accueillie par...
Alors, je me suis toujours présentée...
La population.
Oui, je me suis toujours... Partout où j'étais, je me suis présentée comme femme juive, même quand les personnes qui m'accompagnaient avaient certaines réticences en disant, vous savez, ils subissent une telle souffrance aujourd'hui qu'ils ne vont peut-être pas le comprendre. Et je leur ai dit, ça m'est égal, je suis prête à prendre le risque de leur réaction. Du reste, leurs réactions sont légitimes et je les accepte. Mais je ne veux pas leur mentir quant à mon identité. Je veux leur dire qui je suis et pourquoi je suis là. Et j'ai pu voir à quel point ça n'a causé aucun problème, bien au contraire. Et tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit, mais nous n'avons rien contre les Juifs. Au contraire, nous ne demandons qu'à vivre en paix auprès de vous. Nos maisons vous sont ouvertes. Si un jour vous avez un malheur, quoi que ce soit vous arrive, vous pouvez venir chez nous, on vous accueillera. Ce n'est pas à vous que nous en voulons. C'est à l'armée, c'est à l'occupation, c'est au système politique.
Et ça, c'est étonnant. Ça t'a réjoui, ça t'a fait du bien d'entendre ça.
J'ai trouvé que c'était le signe d'une grande maturité politique. C'est-à-dire que les gens sont capables de faire la différence entre un régime, une armée, et les personnes humaines, même qui sont derrière les fusils et les uniformes. Et malgré la violence de la répression qu'ils subissent, malgré le visage qu'elle a, ils arrivent à faire cette différence.
Quelle était l'atmosphère qui régnait ? Comment, dans quel climat t'as fait cette visite, t'as fait ce voyage ?
Alors bon, il faut dire qu'au moment où nous sommes arrivés en Israël, pendant les 3 jours que nous passions à Tel Aviv, a eu lieu ce qu'on a appelé le massacre de Naplouse, qui faisait suite justement au discours d'Arafat, dans le cadre de la conférence de Genève. Comme si le gouvernement d'Israël avait réagi à cette offre de paix en renforçant la violence dans les territoires occupés. À Naplouse, il y avait à ce moment-là une manifestation pour commémorer l'enterrement d'un jeune de 15 ans qui était mort à la suite de 2 semaines d'agonie à l'hôpital suite aux blessures par balles qu'il avait subies. Et l'armée a tout simplement tiré dans cette manifestation. Il y a eu 5 morts, des dizaines de blessés, et 2-3 jours après, j'ai eu l'occasion d'aller à l'hôpital de Makassed, qui est un des principaux hôpitaux palestiniens à Jérusalem-Est, dans lequel se trouvent les victimes de l'intifada, et dans lequel j'ai pu voir les cas les plus graves qui avaient été blessés lors de cette manifestation. Je veux dire que c'était une expérience vraiment terrible. Je tremblais derrière mon appareil de photo. Toutes les familles étaient massées dans le corridor avec l'espoir de voir leurs fils, des jeunes de 14 ans, 15 ans, jusqu'à 18 ans. Et on ne les laissait pas rentrer parce qu'ils étaient en réanimation. Et moi, je rentrais avec mon appareil de photo. Il y avait la télévision hollandaise aussi. Et j'ai pu voir pour la première fois de ma vie ce que c'est qu'un enfant sur le point de mourir. Puis effectivement, 4 d'entre eux sont morts dans les jours qui suivaient. J'ai vu également ceux qui étaient conscients, qui pouvaient me parler, qui ont pu me raconter ce qu'ils avaient vécu. J'ai vu d'autres victimes de l'intifada, qui sont des gosses paralytiques à vie ou très très gravement blessés.
Est-ce que quand tu étais en Cisjordanie, il y avait le couvre-feu, tu as vu des manifestations, tu as pu participer à...
Je n'ai pas...
Des affrontements, est-ce que tu as pu être témoin personnellement ?
Voilà. Je n'ai pas vécu personnellement de couvre-feu, parce que les couvre-feux sont tournants. Ils sont tantôt dans un village, tantôt dans un camp, une semaine par-ci, 2-3 jours par-là. Par contre, il y avait une grève de 3 jours à la suite justement des massacres de Naplouse, suivie d'une deuxième grève nationale qui commémorait un autre massacre qui avait eu lieu quelques mois auparavant. L'état de grève est presque permanent. Les habitants paraissent se sanctionner eux-mêmes en ouvrant leurs magasins que 3 heures par jour et en les gardant fermés totalement les jours de grève. La grève n'affecte pas seulement les commerces, mais également tous les gens qui travaillent en Israël. Les Palestiniens qui vont travailler de l'autre côté de la ligne verte décident les jours où ils n'iront pas travailler. Et comme l'économie israélienne a besoin d'eux, elle ne peut pas tout simplement les congédier en masse. Donc c'est un certain pouvoir qu'ils ont, mais dont ils souffrent aussi parce que leur revenu économique baisse et le chiffre d'affaires du commerce a baissé catastrophiquement.
Et qu'est-ce qui a changé dans les territoires occupés depuis une année, depuis qu'il y a ce soulèvement, depuis qu'il y a cette bagarre qui s'est engagée, cette révolte ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que tu as pu observer toi-même ?
Bon, le soulèvement, c'est l'aboutissement d'une accumulation de révoltes et d'exaspérations. Ça n'est pas le soulèvement qui a créé le degré de répression qu'on vit maintenant, hein, mais c'est plutôt la répression qui existait déjà qui a fini par provoquer ce soulèvement.
Juste.
Radio Zone 93,8 MHz, Onde Femmes, Intifada 15 mois après, c'est un entretien avec Clotilde Alénic.
Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette répression ?
Bon, je peux dire ce que j'ai vécu moi-même et ce que je sais d'une façon indirecte. Mais ce que j'ai vécu était déjà assez terrible pour m'avoir marqué pour longtemps. Dans le premier camp que j'ai visité, nous étions trois femmes juives et mon copain. Et c'est justement là que nous avons eu cet accueil merveilleux de la part des familles que nous visitions. Mais l'armée, ce jour-là, était en ébullition parce que la veille, il y avait eu des manifestations de rue. Ça veut dire que les enfants brûlent des pneus pour empêcher les jeeps militaires de passer. Ils se retranchent derrière ces pneus et ils tirent des cailloux de très très loin. Des cailloux, il faut bien le dire, qui ne font mal à personne, sinon de temps en temps une petite éraflure sur un tank militaire. Et en représailles, au fait que les enfants manifestent leur colère, leur désaccord, les soldats se comportent d'une façon complètement hystérique. Les patrouilles occupent les rues, elles font irruption dans les maisons, elles rentrent même la nuit, nous ont dit les gens, et même très souvent. Dans la première famille que nous avons visitée, l'armée est entrée, les soldats sont entrés la nuit après avoir cassé la porte, et pendant 15 jours de suite ont harcelé cette famille sans arrêt. Quand ils rentrent dans une maison, il y a une vingtaine de soldats, 4-5 sont à l'intérieur, cassent tout, sortent les gens des lits, donnent des coups de matraque, frappent, terrorisent, dans le but de maintenir les gens dans un état de pression permanent, dans le but de les décourager, dans le but de faire craquer cette résistance. Et malgré que les enfants voient arrêter les aînés, les voient emmener en prison, les voient matraqués, blessés, ça ne les décourage pas, ils continuent quand même. Justement, pendant que nous étions dans cette première famille, il y a eu un bruit terrible dans la rue, et la mère est sortie voir ce qui se passait, et les gosses couraient en criant, ils lui ont dit « on a arrêté ton fils ». Et cette femme merveilleuse qui a déjà 14 enfants, dont les 4 garçons aînés sont en prison, dont le mari est mort. Bon, ses fils, elle ne les a pas revus depuis qu'ils ont été arrêtés, parce qu'on ne lui dit pas où ils sont. L'aîné est emprisonné depuis 5 ans. Sa fille est une fille martyre, comme on l'appelle là-bas. C'est-à-dire, elle a reçu une balle dans le ventre, elle a eu plusieurs mois d'hospitalisation, elle avait 16 ans. Elle a été arrêtée à sa sortie d'hôpital, torturée de nouveau, et relâchée dernièrement. C'est elle que nous venions voir. Et elle avait repris l'école, nous n'avons pas pu la voir, et les événements qui ont suivi nous ont obligés à partir plus tôt que prévu. Et cette mère, déjà tellement frappée, tellement courageuse, est partie toute seule dans la rue, elle a rejoint le groupe de soldats qui détenait son fils. Elle est allée les haranguer, ce que font très souvent les femmes là-bas. Elles sont là, à mains nues, tenues en joue par 4, 5, 6 soldats. Elles n'ont pas peur. Elles les engueulent carrément, même qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Des fois, le regard et la détermination suffisent. Et effectivement, dans ce cas, elle a eu beaucoup de chance. Elle a ramené son fils. Et dans la deuxième famille où nous étions, un moment plus tard, il s'est passé la même chose. Et cette fois, c'est une petite fille de 11 ans qui a été la cible des soldats. C'est-à-dire, ils s'acharnent particulièrement au moment de la sortie des écoles. Et c'était une classe de fillettes qui sortaient de classe. Cette petite Wafa était 2 mètres plus loin que le groupe. Les soldats ont profité pour l'entourer. 4 soldats l'ont tenue en joue, lui ont dit « tu ne bouges plus, sinon on te tire dessus ». Et de nouveau, on a pu être avertis grâce aux enfants qui sont arrivés en courant. Et cette fois, c'est mon amie israélienne qui fait partie du groupe de femmes qui aident les prisonnières politiques, qui est partie toute seule et qui est arrivée au secours de cette petite fille. Et les soldats l'ont tenue en joue également. Et elle leur a crié « tirez-moi dessus, si vous voulez, mais relâchez cet enfant qui ne vous a rien fait ». Ils ont dit « on ne devrait pas vous tirer dessus, on devrait vous réduire en bouillie. Et si vous tenez tellement à elle, bon ben on vous arrête les deux ». Puis elle a répondu « vous pouvez toujours nous arrêter, mais vous n'aurez aucun justificatif ». Et ils ont eu un peu peur parce qu'elle parle hébreu, parce qu'elle est israélienne. Et elle a aussi pu ramener l'enfant. Et c'était extraordinaire de voir la joie de tous les enfants du camp qui étaient présents, qui ont applaudi et qui ont arrêté de tirer des cailloux.
C'est étonnant quand même cette participation d'enfants. En fait, c'est un mouvement d'enfants et de femmes.
Oui. D'abord, il ne reste plus d'hommes dans les camps, presque plus. Hein. Tous sont soit morts, soit en prison. Majoritairement en prison. Les fils aînés aussi. Il y a énormément d'enfants, des garçons de 14-16 ans, et encore, ceux-là sont les plus menacés. Et les enfants voient tous les jours la violence et l'acharnement sauvage. Ils voient matraquer, ils voient emprisonner, ils voient des gens forts et armés s'attaquer à des êtres faibles et sans défense. Et ils savent non plus qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont pas peur d'être blessés, ni de souffrir, ni même de mourir. Et on a vu des choses étonnantes. Par exemple, dans une autre famille d'un autre camp où la mère témoignait de tout ce que ses enfants ont enduré, le plus jeune, qui avait 12 ans, a dit « quand est-ce que ce sera mon tour d'aller en prison ?» Comme s'il attendait ça comme une chose normale et presque une récompense, le fait d'être aussi solidaire de son peuple et de montrer de quoi il est capable.
Donc c'est une situation d'une répression très très forte, c'est une situation de guerre en fait, parce qu'il y a des couvre-feux très souvent, non?
Voilà, je ne dirais pas que c'est une guerre, dans le sens que quand il y a une guerre, il y a 2 belligérants, et j'estime que le peuple palestinien n'est pas en train de se battre avec des armes, ni de conquérir quoi que ce soit, donc il subit plutôt une oppression, hein. Donc je ne l'appellerai pas vraiment une guerre. Mais effectivement, les moyens de répression sont énormes. Et parmi ceux-là, le couvre-feu est un moyen particulièrement cruel. Il s'exerce, que ce soit dans les camps ou les villages, d'une façon tournante. De temps en temps, c'est un village, un autre, ensuite un camp. Ça peut durer de 2-3 jours. Il s'agit presque d'un siège militaire. C'est effectivement un siège militaire. Le plus grand a duré 47 jours dans un camp. Alors pour comprendre ce que c'est, il faut se représenter un camp qui peut contenir de 2000 à 12 000 habitants. Des enfilades de petites maisons qui ont souvent été construites par l'UNRWA, une des branches de l'ONU, qui pourraient ressembler à un village, si ce n'est le fait d'abord qu'il n'y a pas de magasins, pas de vie commerciale, ce sont des cités dortoirs, et d'autre part par le fait qu'elles sont entourées d'un immense treillis et surplombées de barbelés, et que de plus l'armée a fermé les issues avec des grands fûts remplis de ciment, en laissant des tout petits passages pour contrôler mieux qui rentre, qui sort, ou plutôt qui ne sort plus quand il décrète un couvre-feu. Alors un couvre-feu, c'est un moyen de répression qui est extrêmement cruel, parce que les gens n'ont pas le droit de sortir, ni pour se ravitailler, ni lorsqu'il s'agit de villages de campagne pour faire les récoltes, ni parce que des personnes nécessitent des soins médicaux. L'eau, l'électricité sont coupées par mesure de représailles. Tous les services publics sont supprimés. Les gens n'ont pas le droit de mettre le nez dehors, en aucun cas. Il y a du reste un article qui est paru dernièrement dans le Jerusalem Post d'un soldat israélien qui raconte, qui a écrit son journal en tant que soldat obligé de faire appliquer un couvre-feu et à quel point il a vécu ça comme un cauchemar et comme quelque chose d'injustifiable.
Et comment il le justifie, le gouvernement israélien, face à l'opinion publique? Comment il justifie les couvre-feux, par exemple, ou une certaine forme de répression tellement disproportionnée?
Ils estiment que ce sont des punitions collectives. D'après eux, elles sont justifiées par l'intifada. Le peuple n'a qu'à pas se révolter, il n'a qu'à accepter, il n'a qu'à être passif. Et pourtant, l'intifada a fait extrêmement peu de victimes du côté israélien et un maximum de victimes du côté palestinien. On a dépassé maintenant, avec l'accroissement de la répression qu'il y a eu depuis le début de l'année, on a de loin dépassé le cap des 400 morts du côté palestinien et il y en a à peu près 5, 6 ou 7 du côté israélien depuis le début. Bon, en plus des morts, on en est à peu près à 45 000 blessés, ce qui est vraiment un chiffre énorme depuis le début de l'intifada. Et environ 20 000 personnes emprisonnées au total, dont un tiers sont des détentions administratives, c'est-à-dire sans aucun...
يصارعنا ويطاردنا هجان البحر يصارعنا ويطاردنا لكننا أقوى من سمك القرش القرش من يقتسم تراب الأرض من يقتسم تراب الأرض ستكون نهايتهم الناس
des lettres de lecteurs dans des quotidiens, je le vois, et dans une de ces lettres, tu fais mention d'enfants qui ont été enlevés par l'armée israélienne et dans les hôpitaux. C'est-à-dire l'armée vient les arrêter dans les hôpitaux.
C'est vrai. On m'a traitée de menteuse, et à plusieurs reprises, tellement ça paraît inconcevable. On m'a traitée de menteuse déjà en arrivant en Israël, parce que j'avais entendu parler de ces pratiques aux conférences des ONG à l'ONU sur la Palestine. C'était la doctoresse Joumana Odeh qui a fait un énorme rapport sur la pratique de l'armée dans les hôpitaux. Et j'ai voulu, sur place, savoir si c'était vrai. J'ai voulu vérifier tout ça. Et effectivement, j'ai posé la question à tous les médecins que j'ai interviewés dans les hôpitaux, à beaucoup de jeunes qui étaient parmi les blessés. Et cette histoire m'a été confirmée, non pas une fois, mais 5 fois, 10 fois. Elle est une pratique courante, malheureusement. Et l'obstruction aux soins, aux traitements médicaux a fait l'objet d'un énorme chapitre dans le document Punishing a Nation qui a été édité par El-Haq. C'est la branche palestinienne de la Société internationale des juristes. Ce document est de toute première importance. Alors, la pratique de l'armée, c'est de retarder le transport des blessés, d'arrêter des ambulances ou des voitures qui transportent des blessés dans les checkpoints, c'est-à-dire les points qui sont situés sur les routes où l'armée contrôle qui rentre et sort des territoires occupés ou des camps. De laisser parfois des blessés à terre pendant 1 heure ou 2 avec interdiction de les secourir. De retarder administrativement la levée de personnes blessées en disant qu'il faut demander l'autorisation d'un supérieur. Sous couvre-feu, on ne laisse pas les ambulances entrer dans un camp où des blessés attendent, ou bien on leur fait attendre pendant très longtemps. On empêche les médecins d'arriver, on empêche les malades d'aller à leur consultation. Dans les hôpitaux même, il y a fréquemment des raids de soldats qui viennent tirer des bombes lacrymogènes jusque dans les salles où sont les malades ou les salles d'opération. Quand on parle de gaz lacrymogène, on imagine un gaz innocent qui fait pleurer. Ce gaz-là, c'est le gaz CN qui est employé dans nos manifestations. Là-bas, c'est un gaz perfectionné qui a été livré par des firmes américaines, le gaz CS, qui devrait être utilisé à très longue distance, ainsi que l'indique le mode d'emploi, mais qui est utilisé par les Israéliens dans des locaux fermés. Ces gaz créent des lésions très graves, des lésions pulmonaires, des lésions rénales, des lésions du système digestif. En plus, elles ont la faculté de faire avorter les femmes en supprimant toute arrivée d'oxygène au fœtus. Donc, les bébés naissent morts à 6 mois, 7 mois, etc. Et les nouveau-nés meurent aussi fréquemment pour avoir reçu ces gaz. Donc, les soldats n'hésitent pas à tirer ces gaz parfois dans les salles d'école, dans les maisons. Ils cassent des fenêtres et envoient les gaz lacrymogènes à l'intérieur des habitations ou même dans les hôpitaux. Les médecins signalent des conséquences très graves que ces gaz ont eues sur des bébés dans la maternité, sur des femmes qui venaient accoucher ou sur des gens qui souffraient déjà de troubles pulmonaires à la suite de balles. Alors les raids sur les hôpitaux consistent donc à tirer ces bombes lacrymogènes, à battre le personnel, frapper les médecins, les nurses, les infirmières.
Mais sous quel prétexte? Ils arrivent avec des prétextes? Ou c'est purement...
Non, un médecin qui demandait des explications, justement, s'est entendu répondre « Nous n'avons aucune explication à vous fournir ». C'est-à-dire qu'ils estiment très probablement que ces hôpitaux palestiniens abritent des enfants qui sont des résistants, donc qu'il faut encore une fois les punir, puisqu'ils ne sont pas morts, la punition n'a pas été suffisante pour les briser. Et fréquemment, ils emmènent des enfants, ils les arrachent de leur lit, les emmènent, soit dans certains cas pour les transférer dans un hôpital israélien sous garde armée, soit la plupart du temps pour les emmener aux interrogatoires ou aux tortures. Là, j'ai eu des témoignages qui sont vraiment insupportables d'un jeune qui a subi ça, qui a été arrêté à sa sortie d'hôpital et emmené par sa famille qui venait le prendre pour un week-end uniquement, et emmené dans un centre de torture où on l'a frappé sur son opération à la poitrine. Et certains de ses enfants n'ont pas été retrouvés. Le médecin de l'hôpital de El Makassed m'a cité le cas d'un enfant qui avait été amputé des deux mains et qui a été emmené de son lit le lendemain, et on ne savait plus où il était.
Vous écoutez Radio Zone, onde femme, sur Radio Zone 93,8 MHz. Nous parlons de Palestine, territoire occupé. Je suis en compagnie de Clotilde Halleni. Alors, la population palestinienne des territoires occupés, non seulement doit faire face à la répression toujours plus dure de l'armée israélienne, mais il y a aussi les colons israéliens qui se sont installés dans ces territoires.
Effectivement. La Cisjordanie est formée de deux provinces, la Samarie et la Judée. Pour les groupes religieux d'extrême droite, ces deux provinces sont partie intégrante du Grand Israël auquel ils souhaitent revenir et qui leur aurait été promis dans la Bible. Le gouvernement d'Israël est conséquent avec cette vision. Et depuis le début de l'occupation en 67, il a commencé à peupler la Samarie et la Judée par des implantations qui sont aujourd'hui au nombre de 131. Il y a maintenant 80 000 colons juifs dans les territoires occupés. Ces implantations, je les ai vues, elles se présentent sous la forme de villes, d'espèces de citadelles qui ont l'air fortifiées, qui le sont parfois, dans le sens qu'elles sont entourées de fils de fer barbelés ou de murailles, qui sont au sommet des collines, ce qui leur permet de dominer la situation. Et tout autour d'eux, les collines et en bas, des villages. Ces colons se sont appropriés les meilleures terres. Plus de 50% des terres qui étaient cultivées par les agriculteurs palestiniens ont passé au profit de ces colons, ou comme zone militaire, zone de défense ou de sécurité. Ces colons sont armés, et très souvent ils collaborent avec l'armée. Ils descendent souvent dans les camps et les villages, ils font des raids, ils provoquent la population. Ces faits ne datent pas de l'intifada, il y a déjà énormément d'exemples antérieurs au soulèvement, mais ils ont pris des proportions beaucoup plus grandes depuis le soulèvement. Et il est fréquent que des colons descendent, matraquent des jeunes, tirent, et que les soldats les regardent faire sans intervenir.
Mais c'est quel type d'Israélien ? s'installer dans les territoires occupés.
Oui, ce sont généralement des organisations religieuses, fanatiques, d'extrême droite, dont celle célèbre du rabbin Kahane, qui est une organisation basée sur le racisme et la ségrégation, et qui avoue très sincèrement son but de faire déguerpir les Palestiniens qui sont là-bas et de faire de ces terres des terres purement juives. Du reste, il n'y a pas de grande différence entre cette vision et les objectifs que le gouvernement d'Israël a l'air de poursuivre petit à petit en harassant, en harcelant la population, en sapant son économie, sa culture, son éducation. Il semble que son rêve est le pays sans ses habitants. Mais pour en revenir aux colons, de 68 à 86, 2 billions de dollars ont été investis pour mettre sur pied ces citadelles. Les colons ont le droit d'élire leurs représentants municipaux, alors que ce n'est pas le cas des Palestiniens, qui sont soumis à une administration militaire, dite civile. Bon, toute l'infrastructure est faite au profit des colons. L'eau leur est accordée en priorité, l'électricité aussi. Très souvent, les enfants, les jeunes bergers vont faire paître leurs moutons dans les collines qui entourent ces settlements, ces implantations. Les colons voient ça d'un très mauvais œil. Ils prétendent être menacés par ces petits bergers et leurs troupeaux et leur interdisent de venir faire paître leurs moutons à la bord de leur ville. Et les enfants qui n'ont pas voulu obéir à ces injonctions ont vu leurs moutons tués, assassinés, ou eux-mêmes ont reçu des balles. Plusieurs enfants, plusieurs jeunes bergers ont été tués par les colons parce qu'ils continuaient à faire paître leurs moutons dans cette colline. Ces colons se comportent avec une énorme arrogance. Ce sont des groupes paramilitaires et des groupes de terrorisation qui, par bien des aspects, peuvent faire penser au Ku Klux Klan. Actuellement, par exemple, ils se dissimulent dans des voitures arabes.
C'est fanatique.
Complètement. Ils se dissimulent dans des voitures aux plaques bleues parce que, suivant qu'on est arabe ou israélien, on n'a pas les mêmes plaques de voiture. Hein. Les Israéliens ont des plaques jaunes. Donc, ils volent des voitures aux plaques bleues. Ils se déguisent en arabe, ce qui leur permet d'approcher des groupes sans attirer de défiance. Et ils emmènent des enfants, ils les raptent, ils les emmènent, ils vont les tabasser, les battre. Donc la révolte des habitants est aussi grande contre les colons que contre l'armée.
Mais à chaque fois tu reviens sur cette... c'est impressionnant parce que tu reviens, tu dis, et ils battent les enfants, ils ont tiré sur les enfants. Donc il y a aussi, non seulement c'est l'horreur d'une... Tu dis que c'est pas vraiment une guerre, mais disons c'est des affrontements, c'est une répression très forte, mais il y a en plus cet aspect qu'il y a c'est des enfants, c'est des très jeunes, et c'est ça, c'est très choquant, c'est-à-dire on sent vraiment cette, ouais, qui sont désarmés, ils ont des, c'est vraiment la révolte des pierres, et on sent cette c'est assez tragique, c'est assez insupportable à écouter ce que tu racontes.
Absolument.
Parce que c'est des enfants.
Les gens ici ne comprennent pas ça. Le père d'un de mes amis m'a dit « Mais c'est de la faute des parents, ils sont complètement inconscients. Pourquoi est-ce qu'ils laissent leurs enfants aller jeter des pierres et faire des choses comme ça ? S'ils les surveillaient un peu mieux, ça n'arriverait pas. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les provocations quotidiennes se font contre tout le monde. Les enfants reçoivent eux aussi les gaz lacrymogènes. Ils ont aussi les visites de soldats nocturnes au cœur de leur vie. Ils voient leurs parents frappés, martyrisés, et eux-mêmes sont sujets à la même répression. Donc ils sont partie prenante de ce peuple et de sa lutte.
يا رمز بلادي يا عنبر يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر
تظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر تظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر
يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر
أرض القدس العربية تظل غصنك أبديا في أرض القدس العربية
تظل دمعي يتفجر فنقاتل حتى بالخنجر تظل دمعي يتفجر فنقاتل حتى بالخنجر
لن تغبر أبدا.
En fait, depuis une année, sinon plus, c'est une région, c'est un pays, c'est une région complètement bloquée. L'économie aussi, elle doit être complètement arrêtée.
Tout à fait. Les sanctions économiques font partie des punitions collectives. Par exemple, maintenant, il y a interdiction d'exporter les cultures. Couvre-feu décrété au moment des récoltes, pour laisser les récoltes pourrir sur place. Des zones fermées militairement, au nom de la sécurité, au moment des récoltes également. L'eau coupée.
غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر
تظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر تظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر
يا غصن الزيتون الأخضر يا
Intifada, 15 mois après. Vous écoutez la suite du témoignage d'une femme juive de Genève sur la répression dans les territoires occupés. Radio Zone, 93,8 MHz. Vous écoutez Onde Femme.
En fait, depuis une année, sinon plus, c'est une région, c'est un pays, c'est une région complètement bloquée. L'économie aussi, elle doit être complètement arrêtée.
Tout à fait. Les sanctions économiques font partie des punitions collectives. Par exemple, maintenant, il y a interdiction d'exporter les cultures. Couvre-feu décrété au moment des récoltes, pour laisser les récoltes pourrir sur place. Des zones fermées militairement, au nom de la sécurité, au moment des récoltes également. L'eau coupée. Des machines telles que les pressoirs, par exemple, ou des animaux confisqués.
Des pressoirs pour les olives.
Des pressoirs pour les olives, oui. Du reste, actuellement, les taxes que les gens doivent payer pour avoir un pressoir deviennent tellement énormes qu'un certain nombre d'entre eux renoncent à presser les olives.
Donc c'est des sanctions économiques.
Ce sont des sanctions économiques. Les cultures sont détruites dans les champs. Dans un village qui s'appelle Tel, il y a eu 25 jours de siège. 3 tonnes de figues ont été perdues par jour. 3200 pots de yogourt également.
C'est là qu'on voit que c'est une région agricole, c'est la seule...
Oui, elle est basée surtout sur la culture de l'olivier et des agrumes.
Il n'y a pas d'industrie.
500 oliviers appartenant à 32 familles ont été saccagés, 24 ânes confisqués. Il ne faut pas oublier que les ânes sont un outil de travail. L'arrachage des arbres fruitiers est une pratique courante et la destruction des cultures devient presque systématique. À Bourka, des dizaines d'hectares d'oliviers de plus de 100 ans qui produisent les plus grosses olives ont été arrachées. En mai et juin 88, 3690 oliviers ont été arrachés, 4175 arbres fruitiers, 450 agrumes.
Mais ça, c'est vraiment
dit de sécurité.
C'est pas des représailles pures.
Ce sont des représailles, ce sont des punitions collectives. Et en plus, l'eau et l'électricité sont détournées.
Donc il n'y a pas d'industrie.
Il y a quelques petites industries, mais les principales sont en Israël. Et les gens vont travailler là-bas, ou plutôt allaient travailler là-bas, puisque maintenant, ils boycottent les entreprises israéliennes.
l'économie est paralysée. Et les écoles aussi, je pense.
Et les écoles
aussi. J'ai entendu, l'université est fermée.
L'université est fermée depuis une année. Elle n'a pas rouvert ses portes. Toutes les écoles ont été fermées pendant des périodes variables, quelques semaines et dernièrement quelques mois. Elles viennent de rouvrir au début de l'année pour refermer aussitôt. Pourquoi ? Parce que dès que les enfants sont ensemble, ils manifestent leur colère, leur réprobation. Ils ne se plient pas, ils continuent à lever des drapeaux palestiniens, à crier des slogans, à avoir des banderoles, et l'armée ne supporte pas ça.
Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu as vu, toi, dans les rues, devant les écoles ?
Alors, j'ai vu les soldats
affluer. C'est massif ou...
Oui. Aux heures de sortie des écoles, toutes les voitures, toutes les jeeps militaires arrivent. Et les patrouilles attendent à la sortie des écoles et souvent même provoquent les enfants. Et souvent même commencent à intervenir ou à battre sans même que les enfants n'aient rien fait. Donc en ce moment, la rage des soldats est centrée sur les enfants. Ils ne supportent pas leur résistance, leur défi, leur regard. Beaucoup de soldats israéliens qui ont témoigné, qui ont écrit, parlent de ce regard plein de force et de haine des enfants. Et j'ai lu un témoignage comme quoi une petite fille de 6 ans est allée vers un soldat. Elle a fait un geste désinvolte vers son fusil, puis elle lui a dit « Tu ferais mieux de vendre ça, tu pourrais t'acheter quelque chose de plus utile avec. » Donc les enfants n'ont pas peur, ils osent affronter les soldats. Mais derrière tout ce courage, il faut voir un autre aspect moins apparent dans la rue, qui est aussi toute la souffrance que les enfants endurent et le prix qu'ils la payent. Il y a de plus en plus de symptômes dont les médecins parlent dans leur rapport que ces enfants subissent. Insomnie, terreur nocturne, douleur dorsale, maux de tête, troubles nerveux, anorexie.
Mais actuellement, il y a pas mal d'écoles qui sont carrément fermées.
Ah, mais tout à fait. Donc, elles restent pendant des semaines, voire des mois fermées et les enfants sont livrés à la rue. Bon, du reste, il n'y a pas que les écoles qui sont fermées. Toute vie culturelle est complètement paralysée. Par exemple, actuellement, il y a 35 maisons d'éducation, des instituts de recherche, écoles de formation professionnelle et autres qui sont fermées pour des périodes variables qui peuvent aller de quelques mois à une année ou deux ans. Également des journaux et des imprimeries, une dizaine, des associations charitables ou d'entraide, 7, et les syndicats ou des associations locales. Bon, parmi celles-là, j'ai vu une des institutions qui était fermée, qui s'appelle Inach El Ousra. C'est une maison qui est créée, tenue, gérée par des femmes, au profit surtout de jeunes filles. Inach El Ousra avait un grand centre de formation professionnelle. Elle formait des infirmières, des couturières, des enseignantes. Elles avaient également des activités économiques indispensables. Elles distribuaient des machines à coudre dans les familles, dans les villages. Et 4000 femmes travaillaient pour cette institution, dans le domaine de la broderie, de la couture. Et Inach commercialisait toute leur production. Eh bien, les soldats sont entrés dans cette maison, ils ont tout saccagé, ils ont pillé toute la documentation, les registres, le matériel audiovisuel, tous les trésors culturels que cette institution avait accumulés. Ils ont scellé complètement tout le centre de formation, ils n'ont laissé que la garderie d'enfants. Parce qu'en plus des activités de formation professionnelle, Inach El Ousra recueille des enfants, soit orphelins, soit dans les familles sont complètement démunies. Elles ont un orphelinat, un internat dans lequel à peu près 150 fillettes vivent. Et il y a encore 100-200 enfants qui viennent la journée, qui sont nourris, qui reçoivent une éducation, une culture, et qui rentrent dans leur famille le soir, mais qui ont au moins un repas chaud dans la journée. Alors cette garderie d'enfants, parce que ce sont des tout-petits, a été préservée, mais tout le reste est mis sous scellé. Il y a un musée également qui est fermé et en voie de dégradation parce qu'il ne peut pas être entretenu.
Non, j'aimerais beaucoup que tu nous expliques ce que c'est l'intifada et quelle forme prend la révolte des Palestiniens.
Bon, le mot intifada signifie en palestinien, enfin en arabe, insurrection. C'est un mouvement qui a mis une vingtaine d'années à s'allumer, qui était latent sous forme de révolte isolée et qui s'est mis à flamber d'un seul coup. Au début, le gouvernement israélien avait déclaré qu'il se débarrasserait de cette révolte très très rapidement et il pensait que les moyens de répression seraient suffisants. Ça a été exactement le contraire. Plus la répression s'est intensifiée et plus le mouvement est devenu général et plus il a trouvé aussi sa propre théorie, sa propre conception. En fait, on peut le définir essentiellement comme une lutte non violente. Non violente dans le sens que le recours aux armes est exclu. Donc le peuple se défend à main nue. Mais jeter des pierres, ce qui est la chose la plus remarquée sur le plan international, n'est pas le seul moyen. Il y a également les grèves dont j'ai parlé au début, les démonstrations et les marches.
Attends, voir. Les grèves, c'est-à-dire les grèves des ouvriers qui vont travailler en Israël.
Donc tous les ouvriers qui vont travailler en Israël ne vont que le matin et pas l'après-midi, puisque l'après-midi est grève générale dans le pays. Ou bien quand il y a des grèves nationales pour célébrer des funérailles ou commémorer des massacres, tout le monde fait grève complètement pendant 3 jours, 4 jours. Et donc la grève est économique également. Les magasins ne sont ouverts que le matin. Bon, en plus de cela, démonstrations et marches. Par exemple, les femmes organisent aussi parfois leur propre marche, surtout lors de la journée du 8 mars qu'elles...
Elles la font.
Oui, elles la font massivement. Lever des drapeaux ou des banderoles est un acte subversif qui est considéré comme un crime, qui est passible de prison.
Et puis ça, ils font souvent.
Alors, les drapeaux et les banderoles renaissent, on ne sait pas comment. L'armée les prend, les brûle, punit horriblement et ces drapeaux ressortent de partout, avec n'importe quel bout de chiffon, n'importe quel bout de papier.
Et puis c'est le drapeau palestinien.
Le drapeau palestinien. En plus, il y a des refus de payer des impôts, des boycotts des produits israéliens, boycotts de l'emploi israélien aussi, désobéissance aux écoles fermées. Par exemple, on décrète que tel jour une école va fermer, mais ce jour-là, tout le monde arrive, les professeurs, les élèves. Condamnation de l'occupation en essayant d'alerter la presse, l'opinion publique. Le refus de collaborer quand des membres du gouvernement ou de l'armée le demandent. La punition parfois de certains collaborateurs ou en tout cas leur ostracisme. Des funérailles symboliques, des refus de payer des amendes.
Par exemple, des funérailles symboliques, t'as vu pendant ton séjour des funérailles, comment ils font?
Non, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir. Non.
Donc c'est des funérailles cortèges, manifestations.
Voilà, avec banderoles et protestations en même temps. Comme il y a eu à Naplouse, juste au moment où on arrivait là-bas, on était encore à Tel Aviv. Rupture de couvre-feu, par exemple, tout le monde sort quand même. Démonstrations dans les églises et les mosquées. Mais bon, toutes ces démonstrations sont de plus en plus dangereuses parce que depuis le début de l'année, enfin depuis surtout que Arafat a fait ses offres de paix, depuis le début des négociations, enfin plutôt du dialogue avec les États-Unis, Israël a redoublé de violence dans les territoires occupés. Et maintenant, par exemple, rompre un couvre-feu, c'est être sûr qu'on va être tué sur place. Donc ces actions deviennent de plus en plus héroïques et de plus en plus difficiles.
Mais l'armée tire des balles en caoutchouc,
Pas seulement. Il y a des munitions, live ammunitions, des balles de haute rapidité, des balles de caoutchouc et des balles d'oundoum explosantes.
Et pour tenir une année de révolte face à une répression de ce genre, je pense que la population palestinienne a dû s'organiser, créer des structures.
Voilà, bien sûr que tout ça, tous les exemples que j'ai donnés ne sont que des moyens de résistance. Mais ce qui caractérise l'intifada, c'est toute l'organisation qui a été mise sur pied. C'est toute surtout la création des comités populaires. Les comités populaires sont des organisations clandestines parce qu'elles sont terriblement réprimées. Toutes les personnes suspectées d'appartenir à un comité populaire, d'une façon ou d'une autre, sont arrêtées, emprisonnées, hommes et femmes. mais ces comités populaires continuent envers et contre tout. Et leur tâche, c'est de pallier à la disparition, à la fermeture des écoles, en créant des écoles alternatives. Donc des personnes dans les maisons donnent des cours aux enfants. Si on les attrape, elles sont mises en prison tout de suite. C'est un crime que de dispenser un enseignement aux enfants. Malgré tout, les comités populaires continuent à le faire. Ils ont également refondu les programmes. Ils ont élaboré une nouvelle conception de l'enseignement et de l'éducation. Ils ont refait des livres d'histoire qui revoient l'histoire de la Palestine à travers leurs propres yeux et non pas à travers les yeux de l'occupant. Donc je crois que l'aspect admirable de ces comités populaires, c'est tout leur aspect créatif. Bon, il y a également des comités de femmes, et peut-être non pas également, mais surtout des comités de femmes. Les femmes jouent un rôle de pointe dans l'intifada. Ce sont elles qui procurent des soins, des secours, distribuent du ravitaillement, organisent la solidarité pour les familles les plus touchées et créent un réseau vraiment d'entraide sociale. Bon, justement, ce rôle a fait progresser les femmes à une rapidité étonnante. Elles avaient un rôle traditionnel qui les maintenait complètement dans la soumission avant. C'est encore le cas dans des villages agricoles, mais particulièrement dans les camps qui sont un lieu de vie sociale où les gens sont regroupés en masse, où ils sont pauvres, où ils n'ont rien à perdre. On peut presque dire qu'on assiste à la construction d'un mini-modèle de société socialiste. Si quelqu'un n'a rien, les autres lui donnent. S'il y en a un seul qui a un salaire, tous ses voisins en bénéficient. Si une maison est détruite, les gens sont hébergés par leurs voisins. Personne ne reste abandonné. Si des parents sont arrêtés, les enfants sont pris en charge.
Et puis dans les camps, il y a une majorité de femmes et d'enfants, je pense.
Alors actuellement, elles le disent elles-mêmes, c'est elles qui organisent tout. Les hommes ne sont presque plus là, ils sont actuellement inexistants. Donc c'est elles qui font tout, qui organisent tout.
Donc elles se retrouvent à avoir un rôle exceptionnel qu'elles n'avaient pas avant.
Oui, et non seulement c'est le cas, mais elles sont conscientes également que ce rôle, elles ne veulent pas le reperdre. Elles ont tout à fait en tête l'exemple des femmes algériennes qui ont pris une part importante à la lutte et qui sont retournées sous leur voile après la victoire. Et elles disent elles-mêmes, nous, on ne retournera pas dans nos cuisines. Ce qu'on a acquis, notre confiance en nous-mêmes, la conscience qu'on a de notre capacité, on ne la perdra plus.
Donc elles exercent des responsabilités.
Voilà, et personne ne les leur conteste, c'est-à-dire les hommes ont spontanément compris qu'elles étaient, que leur importance était fondamentale dans la lutte. Et ils les laissent agir sans aucune
contrainte. Comment elles se sont organisées, les femmes palestiniennes ? Comment elles sont organisées ?
Elles sont donc organisées dans les comités populaires. Il y a des groupes de femmes et des groupes de jeunesse qui forment, disons, qui encadrent des jeunes filles, des jeunes femmes, qui les préparent à rester actives même après le mariage.
Est-ce que tu as eu écho de discussions sur le rôle des mères vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'initiative de ces enfants dans la rue, cette
oui.
présence politique.
D'abord, il faut dire une chose, c'est que les familles sont extrêmement nombreuses. On voit fréquemment des familles de 5, 7, 12, 14 et même 16 enfants pour une seule femme. Et ils considèrent ça comme un apport indispensable à leur lutte. Bon, on sait que le gouvernement israélien est absolument paniqué par la différence de l'expansion démographique entre la société juive et arabe. Et pour les Palestiniens, la démographie est une de leurs armes. Et c'est une arme redoutable, parce qu'Israël est bâti sur l'idée d'une une large majorité juive. Et comme l'augmentation de la population arabe est beaucoup plus rapide que celle de la population juive, on peut penser que d'ici la fin du siècle, il y aura un renversement de cette tendance. Également, l'annexion pure et simple des territoires occupés, serait une catastrophe pour l'État d'Israël sur le plan de sa démographie, dans son optique d'avoir une nation juive pure. Donc les femmes sont conscientes que c'est une arme qu'elles détiennent, et elles sont très fières d'avoir beaucoup d'enfants, et elles le revendiquent. Et elles disent, pour un enfant tué, nous en referons 10. Donc effectivement, pour nous autres féministes, ça n'est pas le moment d'arriver là-bas avec des mots d'ordre de contrôle des naissances ou notre corps est à nous. Elles demandent de pouvoir avoir des enfants, mais dans le respect de leur dignité. Ce qui n'est pas le cas pour les femmes palestiniennes enceintes qui sont arrêtées et torturées.
Et pour conclure, Clotilde, tu voulais lancer un appel à nos auditrices et à nos auditeurs. Je te donne la parole.
Absolument. L'État qui est en train de commettre un crime historique intolérable, qui vient de donner l'ordre à ses soldats d'abattre chaque lanceur de pierre à bout portant, ou de l'emprisonner pour 20 ans, est encore cautionné par le silence et la complicité d'une large majorité du peuple juif. Autrement, il ne pourrait pas poursuivre son œuvre de destruction. En tant que femme juive, j'appelle tous les hommes et femmes juives de Suisse à s'unir, à protester, à écrire par exemple au gouvernement israélien, à lui faire connaître leur désaccord, à lui dire qu'en aucun cas il n'agit à notre nom. Il est essentiel qu'il sache qu'une partie des juifs d'Israël ou de la diaspora ne soutient pas sa politique. J'en appelle aussi à l'opinion publique en général pour qu'elle encourage le gouvernement suisse à faire pression sur Israël pour qu'il entame au plus vite des négociations avec l'OLP et se retire des territoires occupés.
S'il y a parmi vous, auditeurs et auditrices, des personnes juives intéressées à poursuivre la réflexion sur ce thème avec Clotilde, sur le thème Israël et les territoires occupés, n'hésitez pas à nous écrire à Radio Zone, Onde Femme, 7 boulevard Calvocht, 1205 Genève. Je répète, Radio Zone, Onde Femme, 7 boulevard Calvocht, Genève. Clotilde, je te remercie pour ton témoignage et à bientôt. La musique que vous avez entendue tout le long de cette interview est une musique tirée du disque Palestine, musique de l'Intifada, un tout nouveau disque qui vient de sortir, daté de janvier 89. Vous allez écouter maintenant pendant un moment des extraits de ce disque. Je vous répète le nom, Palestine, musique de l'Intifada. L'acheter, c'est aussi un acte de solidarité avec le soulèvement du peuple palestinien.